Les livres. Sélection de Radio Silence. Aujourd'hui, mardi 9 février, de l'an de grâce 2010, ici Périnée. À tous, présents et à venir, qui voulaient bien nous écouter, salut. Une chronique précédente, mais y a-t-il vraiment des auditeurs à cette chronique de livres, faisait la recension de l'histoire assassinée, ce chef-d'œuvre du professeur Hertz. Dans ce travail incontournable, selon le mot à la mode, ce remarquable historien dénonçait l'énorme, générale et récurrente falsification de l'histoire. Un ouvrage, encore récent, vient de paraître, que l'on peut considérer comme une illustration parfaite, un exemple parfait de cette imposture. Il s'agit du Louis XIII de Jean-Christian Petit-Fils, Perrin éditeur. Il est vrai que coincé, en quelque sorte, entre le panache blanc, du Vert-Galant, son père Henri IV, considéré comme ayant mis fin aux guerres de religion, et l'éclat du roi Soleil, son fils, Louis XIII, à l'ombre de Richelieu, semble faire piètre figure. Déjà, ses contemporains s'emploient à le dénigrer, tel le chroniqueur Mathieu de Mourgues, vendu, il est vrai, à la reine-mère, Marie, ennemie jurée de son fils, ou encore la venimeuse, la redoutable Chevrette. Ainsi Richelieu nommait-il Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, diablesse enchanteresse, aux yeux de velours, à la sensualité captivante, un rien perverse, pour qui eût mieux convenu d'ailleurs le sobriquet de vipérette. Écrivains et pseudo-historiens prennent le relais. Saint-Simon, l'exécrable petit duc, avec ses mensonges et ses ragots, Voltaire, les romantiques ensuite, Hugo, Vigny, Michelet, Alexandre Dumas, bien sûr, dans ses Trois Mousquetaires, les historiens officiels de la Troisième République, tous entretiennent et aggravent la légende noire. Le roi est qualifié d'idiot, sic, d'insignifiant, d'effacé, d'être falot, écrasé par son premier ministre, etc., etc. Et le cinéma, bien sûr, jusqu'aux dernières années du XIXe siècle, n'est évidemment pas en reste. Sous ce torrent d'immondices gît en réalité une toute autre réalité. Et c'est à mettre au jour, à proclamer cette réalité, que vise l'ouvrage de Jean-Christian Petit-Fils, annonçant dans un court mais dense et superbe avant-propos que, citation, cet ouvrage se veut une réhabilitation de ce roi oublié. Certes, la vie, brève, 42 années, le règne, 33 ans, de Louis XIII, se déroule dans des circonstances et au milieu d'événements dramatiques, tragiques même. C'est l'époque baroque, le cœur de l'époque baroque, avec ses couleurs, ses carrousels, ses cavaliers et ses cavalières, ses cavalcades, ses mousquetaires, ses princesses somptueusement vêtues, son faste, cette affirmation de la vie, de la création frémissante de la vie. Mais c'est un temps chaotique, dur, impitoyable. Les horreurs des guerres de religion viennent à peine de cesser. C'est ainsi constamment que Louis XIII aura à affronter les vents contraires. D'abord, son enfance est marquée irrémédiablement par l'assassinat soudain et atroce d'un père particulièrement admiré et aimé. La perte est d'autant plus irréparable que la reine-mère, Marie, Marie de Médicis, se révèle une mauvaise mère, odieuse au sens fort, au sens latin du terme, abusive, égoïste, avide et intrigante. Elle fait penser à Irène, l'impératrice de Byzance, liée au parti des moines, faisant saisir son fils, le Basileus, pour lui faire crever les yeux et usurper son trône. Ce qui n'a pas empêché, au demeurant, l'Église orthodoxe de la canoniser. Sans aller jusque-là, Marie ne cessera de conspirer contre son fils, se rendant même coupable de félonie au sens fort du mot. Malgré sa vigueur native, Louis XIII est un cavalier et un chasseur infatigable. La santé du jeune roi se révèle fragile. sera pour lui un handicap permanent, miné qu'il est par le mal de Crohn, du nom du grand médecin américain qu'il a identifié, terrible maladie intestinale que saignée et médecine, médecine au sens de l'époque, c'est-à-dire lavement, médecine à répétition, entretiennent et aggravent. Nous sommes à l'époque du docteur Diafoirus et de M. Burgon. Cet état valétudinaire quasi constant n'empêche pas le petit roi de se passionner pour les armes et les choses de la guerre. Sa bravoure, son sens tactique sont connus. Lui-même, enfant, aimait à dire dans son langage enfantin « Je suis un soldat !» Un soldat. C'est vraiment un rejeton d'Arès et d'Athéna, le digne fils du vainqueur d'Arc et d'Ivry. Par contre, s'agissant des femmes, il diffère sensiblement du vert galant. Non pas qu'il soit ce que certains ont prétendu qu'il était, mais c'est un chaste, un vertueux. S'il a eu des favoris, c'est en réalité pour ceux qu'il espérait leur voir tenir auprès de lui la fonction de principal ministre, fonction alors inexistante. Et il en est ainsi dans les autres États européens. Par contre, de ses favorites, la fascinante Marie d'Hautefort, la délicieuse et sainte Louise-Angélique de Lafayette, ce qu'il en attend dans son désert affectif, c'est d'en être aimé. Sa timidité avec les femmes ne l'empêche pas du tout d'être tout à fait séduit par les charmes et le charme de ses ravissantes filles. Mais c'est un chevalier du Moyen-Âge, un adepte de l'amour courtois. L'adultère lui fait horreur. Comme d'ailleurs les dévergondés et les effrontés, voyant ainsi venir à lui une jeune demoiselle à la jolie gorge entièrement dénudée, on lançait alors la mode, l'agréable mode, de montrer même la pointe des seins. Il gratifia ses appas impudiques d'une gorgée de vin, en y crachant une gorgée de vin. Il avait cependant besoin de toute son énergie pour assumer une situation politique exceptionnellement dure, difficile. À l'intérieur, les grands, ou prétendus-tels, c'est-à-dire la haute noblesse et ses clientèles de moyenne et petite nobliaillerie, toujours affectées de son prurite de turbulence féodale, cette noblesse entend prolonger les pratiques anarchisantes des guerres de religion et se servir de l'État plutôt que de servir le roi. D'autre part, le fameux édit de Nantes, s'il a, au moins provisoirement, apaisé les guerres religieuses, a substitué à l'état de guerre une institutionnalisation de territoires protestants autonomes. Il est en effet alloué à la RPR, religion prétendue réformée, plus de 100 places de sûreté avec remparts, places bien armées, créant ainsi dans le royaume de mini-républiques de Genève, La Rochelle, Montauban, le Béarn dans son entier, etc., où sont opprimés affreusement les catholiques et qui sont un véritable démembrement de la France. À l'extérieur, la situation est tout aussi grave. Affaibli par les épuisantes guerres de religion, le royaume se retrouve pris entre les tenailles des deux branches Habsbourg, de Madrid et de Vienne, les puissances dominantes en Europe, sans autre contrepoids que la Turquie. Leur projet d'hégémonie mondiale postule la vassalisation de la France. Il ne faut pas oublier que peu d'années avant, Philippe II d'Espagne a prétendu faire désigner une de ses filles comme reine de France pour succéder à Henri III, dont elle était à la vérité la nièce. À noter la complicité du fameux parti dévot, des Bérulles, des Marillac et autres avec les Habsbourg, puissance catholique. Ce parti dévot qui donnera dans sa déviance finale, le Tartuffe de Molière, sans oublier la croissance continue de la puissance navale anglaise. Envers et contre tout, partout, toujours, et alors que les intrigues, une citation du livre, complots, trahisons, en premier lieu de sa mère et de son frère Gaston d'Orléans, l'inconstant Farfadé, poussés sous ses pas comme des champignons vénéneux. Le fils d'Henri IV fait front. Et d'abord, il a à peine 16 ans. En mettant par le coup de majesté, on l'appelle ainsi, en mettant fin pardon, en mettant fin au scandale du règne et de l'oppression de Concini, Concini, époux de la Galigai, suivante de la reine-mère, suivante dont celle-ci était littéralement inamorata, énamourée, selon Botti, ambassadeur florentin, bon observateur des choses. Par la suite, et surtout en choisissant, avec un flair incomparable, l'homme de la situation, Richelieu, le grand cardinal, et en le maintenant et soutenant constamment contre les cabales incessantes, mais aussi en supportant lui-même auprès de lui le roi, si jaloux de son autorité de roi, une personnalité aussi exceptionnelle, une personnalité de génie vraiment, mais de si éprouvante compagnie, ambitieux, avide, orgueilleux et de surcroît nerveux et dépressif jusqu'aux larmes, comme plus tard Bismarck. Avoir gardé auprès de lui Richelieu, pour lui odieux par certains côtés, mais indispensable au bien du royaume, voilà de la part de Louis XIII un quasi-miracle. Les fruits du travail commun du roi et du grand ministre, leur communion, sont immenses. C'est de la monarchie absolue que va accoucher le règne de Louis le Juste. Monarchie absolue, c'est-à-dire non pas illimitée, despotique, comme le répètent à l'envi les esprits primaires atteints d'arriération mentale. Ça veut dire absolue, libre de toute allégeance, aussi bien à l'égard de l'Empire que de la papauté, non plus qu'à une prétendue et illusoire souveraineté nationale. Toujours limité, tempéré, au contraire, par l'organisation sociale en corps et état ou ordre, le gouvernement par conseil, les lois fondamentales du royaume, et surtout la soumission aux édits du décalogue et de la morale naturelle représentée par le catholicisme. Monarchie absolue, seule à même de répondre aux défis nouveaux, à la modernité. À l'intérieur sont contenus les grands et leur clientèle de nobliaux, et s'impose le respect du bien commun. La paix civile, après la réduction de La Rochelle, met fin au démembrement politique des huguenotières. Jamais, cependant, le roi et son ministre ne feront de prosélytisme forcé auprès des protestants, comme le fera par exemple Ferdinand de Habsbourg à la même époque. Simplement, la ferveur de la contre-réforme, œuvre notamment des pères de la Compagnie de Jésus, soutenue par le roi et son ministre, sera assez attractive pour provoquer un fort courant de conversion chez les huguenots, qui aboutira par exemple à la conversion un peu plus tard du grand Turenne. À l'extérieur, la gloire des armes et l'action de la diplomatie font que se trouve déliée la corde tenant France étroite liée, selon la magnifique expression, l'expression admirable de Christine de Pisan s'agissant de Jeanne d'Arc. L'éclatante victoire de Rocroi, survenue 5 jours après la mort du roi, qui, quelques jours avant, en avait eu d'ailleurs la prémonition. Victoire qui voit enfoncer la troupe d'élite des Tercios, cette formidable infanterie d'Espagne, la meilleure infanterie que le monde ait jamais connue. Cette victoire du Grand Condé marque le début de la suprématie militaire française au XVIIe siècle. La reine régente Anne saura magnifiquement achever cette œuvre et en recueillir les fruits au traité victorieux de Westphalie et des Pyrénées. Mais justement, la plus grande victoire du roi, son deuxième miracle, s'ajoutant à celui de la coexistence avec Richelieu, apparaît bien d'avoir réussi la métamorphose de la reine. La régente Anne n'est plus la petite reine régnante, jolie et charmante, mais restée une princesse espagnole, plutôt égoïste et frivole. Elle est devenue princesse française à part entière, reine de France, jusqu'au bout des ongles de ses 6 jolies mains, s'accomplissant en une grande souveraine, un véritable homme d'État. Tout est prêt pour l'héritier de ces 2 grands souverains qui aura à réaliser la représentation, la théâtralisation du pouvoir, stade ultime de la monarchie solaire. Louis XIII meurt pratiquement en odeur de sainteté, l'attestent des témoignages d'hommes aussi crédibles que M. Vincent, l'aumônier de la reine, écrivant n'avoir jamais vu mourir une personne plus chrétiennement et G. Giustiniani, le grand ambassadeur vénitien, disant « Il est mort presque saintement, après une vie sans tache. » Également le père Dinet, de la Compagnie de Jésus, son confesseur. C'était le 14 mai 1643, jeudi de l'Ascension. Beaucoup y virent un signe du ciel. Très peu avant, comme ultime acte de gouvernement, le roi avait légué Mazarin à la future régente comme l'homme indispensable pour diriger les affaires du royaume. Le premier acte d'Anne, devenue régente, sera de le nommer premier ministre. Dernier grand roi de guerre, à la manière médiévale, Louis XIII n'aura jamais baissé la garde. Il s'est donné à son royaume pour le sauver comme notre Seigneur s'est donné à l'humanité. Sa dernière parole, son ultime parole, sera d'ailleurs le nom de Jésus. Et il a vraiment épousé mystiquement ce royaume d'hélice. À ceux qui lui reprochent son inflexible rigueur, dans le cas de Montmorency par exemple, il a répondu par avance « Je ne serais pas roi si j'avais les sentiments des particuliers ». Phrase qui résume au mieux tout l'héroïsme cornélien de sa vie. Car il est un pur héros du grand dramaturge, ennobli par lui à la demande pressante de la reine. Sa vie aura été un combat émouvant et pathétique, à vouloir, c'est la citation et le petit-fils, à vouloir se hisser au niveau du modèle idéal qu'il s'était forgé. L'aura soutenu dans ce combat héroïque sa foi, sa piété profonde, et particulièrement sa ferveur mariale absolue, si touchante, si sublime. Pour lui, la Madone est bien le visage féminin de Dieu. C'est tout naturellement, sous l'influence, semble-t-il, d'une religieuse, une fille du calvaire, sœur Anne-Marie de Jésus crucifié, Anne-Marie de Goulaine dans le monde, elle-même stigmatisée. C'est sous son influence que le roi fait don de sa personne et de son royaume à la reine des cieux, devenue par là reine éminente et perpétuelle de France, le 15 août, devenant ainsi la vraie fête nationale de la France. Refermé ce Louis XIII de plus de 900 pages, mais très aéré et merveilleusement accessible et distrayant, car il y a de longs ouvrages qui ne sauraient faire peur, l'on pourrait poser la question, l'auteur a-t-il vraiment réhabilité Louis XIII? La réponse est sans embâche évidente, oui, et de façon éclatante comme une fanfare de cavalerie. Son travail, sa démonstration sont absolument convaincants, irréfragables, avec la rigueur d'un raisonnement juridique et d'une démonstration mathématique. À l'appui notamment de son jugement, l'auteur retient en premier le côté humain, oui, humain du roi. Ceci dans les pages ultimes du livre, les pages 859 et 860, que l'on se devrait d'apprendre par cœur. Louis XIII a bien été un grand, un très grand roi. Et ce livre est un chef-d'œuvre, un grand livre, un très grand livre, à lire, relire, faire lire, offrir. Et petit-fils, par ce travail, est consacré grand, très grand historien. Merci de nous avoir écoutés. À une autre fois, et qu'en cette période d'obscuration, nous garde et garde son royaume d'hélice, la très sainte Vierge Marie, notre reine, est Hec ad majorem Dei gloriam.